Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h23, c'est la 25e fois que le dispositif alerte enlèvement est enclenché en France. Habituellement, cette mobilisation des médias et des services de l'État connaît 100% de réussite. Mais hier, à Angers, la petite Vanille disparue vendredi a donc été retrouvée morte. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à Paris ainsi qu'à Pékin. Et à New York, votre dernier livre, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire, est disponible aux éditions Le Courrier du Livre. Alain Bauer, d'après vous, est-ce que c'est la première faille ou le premier raté du dispositif alerte enlèvement?
Demi raté. Il a permis de retrouver la mère, puisqu'elle-même était en fuite. Elle n'a pas été arrêtée gentiment à la maison. Elle ne s'est pas présentée au service de police. Donc elle a été identifiée en raison et du fait de l'alerte et notamment du nom. Donc le dispositif a marché à moitié. Et deuxièmement, au vu de ce que l'enquête commence à indiquer, en tout cas les services du procureur, la disparition, le lancement de l'alerte, même s'il s'était fait dans des conditions extrêmement rapides, n'aurait rien changé à l'horaire présumé de l'assassinat.
La petite fille était visiblement déjà décédée.
Voilà, d'après ce qu'on sait. Alors évidemment, il faut attendre des éléments plus précis, notamment de l'enquête de médecine légale, mais en la matière, on sait assez vite si ça aurait pu ou pas servir. Par contre, ça a bien servi à l'interpellation, donc je dirais moitié.
Alors, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a matière ou pas à remettre en cause alerte enlèvement? Visiblement pas, si je vous suis bien.
Non, il n'y a absolument pas matière. Il y a un sujet qui est la non-présentation d'enfants par ascendant, parce que pour l'essentiel, l'alerte enlèvement fonctionne pour des inconnus enlevant des enfants qui ne sont pas les leurs. Et il faut bien faire la différence entre ça qui déclenche l'alerte enlèvement très vite et la non-présentation d'enfants et les conflits intrafamiliaux où les services de police sont tellement submergés. Il y a 60 000 disparitions par an, dont 10 000 d'enfants. Donc vous imaginez s'il y avait 10 000 alertes tous les jours. Donc il faut un tri entre « je ne sais pas qui a pu enlever mon enfant, on déclenche tout de suite » et « c'est mon mari, ma femme, mon ex, etc. » où là, il y a une sorte de latence sur « oui, mais c'est peut-être un petit retard, etc. » Donc il y a un souci et là, c'est le discernement qui fait la différence.
Mais justement, alors c'est ce qu'on a découvert ce matin avec l'enquête d'Alice Moreno, c'est que dans ces cas très précis où ce sont les parents qui ne ramènent pas ou qui ont un peu de délai, de retard, visiblement, on peut déclencher à retardement. Oui. Est-ce que c'est normal? Vous nous parlez de discernement, c'est très difficile d'évaluer ce genre de choses.
C'est absolument impossible. D'ailleurs, la plupart des services de police ou de gendarmerie qui gèrent les non-présentations d'enfants, les sorties illégales du territoire, les difficultés dans un couple qui se déchire, sont face à des mensonges permanents et difficile, à une incapacité à savoir le vrai du faux, à percevoir la douleur des familles, qui est quand même considérable, des enfants qui sont malmenés au milieu, et donc ils évitent de déclencher des mesures trop brutales, trop vite. En la matière, à la différence de discussions qu'on peut avoir sur des alertes SAMU maltraitées, des affaires où il y a visiblement de la faute professionnelle, je pense que dans cette affaire, si on regarde ce qu'est la réalité des disparitions, et notamment disparitions d'enfants d'année, à peu près tout le monde a à peu près bien fait son travail, même si c'est toujours facile de dire on aurait pu s'en rendre compte. Alors le vrai sujet, il est plutôt sur l'autorisation de la mère seule à avoir un droit de garde de l'enfant dans les conditions qui étaient les siennes, y compris ces conditions précédentes.
Alors, vous anticipez ma prochaine question. Non, mais c'est très bien. Cette femme de 39 ans, on le rappelle pour nos auditeurs, souffre de graves problèmes psychiatriques. Et elle a quand même eu le droit de se retrouver seule avec son enfant, de sortir quelques heures. Ce genre de cas arrive visiblement bien trop souvent. Alors, Martine Brousse, la présidente de la Voix de l'Enfant, disait à notre micro ce matin, la psychiatrie des adultes doit absolument rencontrer la voix de l'enfant. Qu'est-ce que peut-on faire et est-ce qu'il est normal de confier à une mère qui a de tels problèmes psychiatriques son enfant, ne serait-ce que pour des visites ponctuelles? Je sais que c'est terrible cette question parce que...
Non, d'abord, il est à peu près normal d'essayer, envers et malgré tout, de garder un lien parent-enfant, que ça s'agisse d'une mère ou d'un père, n'est pas la question.
C'est pour des sorties extérieures?
Si elles sont supervisées, oui, la question c'est la sortie seule. En fait, le différentiel, il n'est pas dans l'existence du lien ou dans la sortie, c'est dans la supervision. Et là, on pointe le doigt sur le manque criant de dispositifs, de structures et de capacités. Et donc en France, sur ces questions-là, comme sur à peu près toutes les questions criminelles, entre rien et trop, on ne sait pas faire.
Les deux enfants de cette femme étaient en famille d'accueil depuis la naissance. Est-ce que ça ne doit pas, par définition, je dirais, alerter au minimum? Et est-ce qu'au bout du compte, on parle finalement d'un problème tout simplement psychiatrique? C'est-à-dire qu'on dit très souvent en France, les fous sont soit en prison, soit dans la rue, alors qu'ils devraient être à l'hôpital psychiatrique. Vous nous confirmez cette analyse?
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'à un moment, dans les folies des postes années 70, on a décidé qu'il fallait supprimer l'hôpital psychiatrique parce que c'était mal. Donc on a laissé la prison faire une sorte de dispositif de récupération de ceux qui devraient être en dispositif psychiatrique, ou la rue faire ceux dont on pense qu'ils ne sont pas suffisamment dangereux pour ces deux dispositifs extrêmes. Qui relève de la théologie plus que de la science, pose un problème majeur qui est de la reconstruction d'un outil psychiatrique adapté, psychologique et psychiatrique adapté en France. Et de ce point de vue-là, nous avons pris un retard absolument invraisemblable, alors que nous sommes le pays qui, avec Philippe Pinel et quelques autres, a inventé le fait que la prison n'était pas un espace de soins.
Que nous dit la criminologie sur ces mères qui tuent leurs enfants ?
Alors d'abord, il faut savoir que dans l'ensemble des secteurs criminels, le seul où les femmes sont majoritaires, c'est l'assassinat de leurs propres enfants. Le néonaticide d'abord, les enfants juste nés, qu'on les retrouve congelés, enterrés, le refus, le déni de grossesse, le Munchausen, on rend ces enfants malades pour mieux les soigner. C'est un délire de possession ou de négation, c'est très compliqué à traiter, mais c'est très connu. Il y a là une caractéristique spécifique. Aux femmes qui est extrêmement importante et extrêmement douloureuse à traiter, mais qu'on ne peut pas sous-estimer. Et ça amène aussi à un deuxième sujet qui est religion. Alors, on dirait que c'est assez éloigné, mais pas du tout. Les femmes djihadistes, c'est-à-dire que notre incapacité à comprendre que des femmes sont des criminels comme les autres, que la parité existe sur cette question et qu'il faut les traiter non pas comme des pauvres victimes d'elles-mêmes ou d'une société machiste, mais comme parfaitement capables d'être des criminels à part entière.
Une toute dernière question, s'il vous plaît, en quelques mots. Les chiffres de la délinquance publiés ce matin par le journal Le Figaro sont tout à fait inquiétants. Ils partent d'une aggravation, pour le coup, extrêmement importante.
Oui, c'est surtout les violences qui sont un problème. Oui. Le taux d'homicidité, homicide, tentative d'homicide, qui ne sont que des homicides qui ont raté coups et blessures volontaires, a atteint son plus haut degré depuis que la statistique existe l'an dernier.
On a une explication, on ne fait que constater pour l'instant.
Violence sociale plus violence sociétale, règlement de compte entre particuliers, déni de confiance et de légitimité dans les forces de l'ordre et le système judiciaire. Les gens règlent leurs comptes tout seuls. Donc vous avez une violence sociale dans la rue, une violence sociétale dans la vie. Et puis là, vous avez une aggravation considérable sur ce qui est l'indicateur le plus douloureux, mais le plus représentatif de la violence société, l'homicide.
Merci beaucoup Alain Bauer. Je rappelle votre livre 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire aux éditions Le Courrier du Livre. Bonne journée.
Bonne journée.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour répondre à toutes vos questions.
Les essentiels.